Bonjour, ici le pasteur Thibaut de la Ruelle de l'église protestante de La Réunion qui est basée au 123 Allée des Saphirs à Saint-Denis qui vous accueille aujourd'hui pour cette émission Parole. Pour être ou pour rester dans les titres, dans l'actualité, dans les gros titres des journaux, je souhaite faire porter ma réflexion d'aujourd'hui sur cette affaire des Bleus. Cette affaire qui est pratiquement en train de devenir une sorte d'affaire d'État. Alors je précise tout de suite que dans mon propos, je ne vais pas chercher à défendre une position partisane. Je ne vais pas chercher à défendre tel ou tel, ni défendre le football, ou au contraire l'attaquer. À mon sens, et c'est ce que je vais essayer un petit peu de montrer, c'est que cette affaire révèle plutôt des choses qui vont bien au-delà du foot. Et donc que cette affaire finalement fonctionne beaucoup plus comme un révélateur, comme un symptôme, et c'est pour cela que je m'intéresse à ce sujet. Au fond, je vais développer deux points, deux gros points. Un premier qui touche à la question bien connue de l'argent, et la seconde qui touche à la jeunesse. Alors la première chose qui me semble assez remarquable, c'est donc qu'une grosse partie de cette affaire touche à l'argent. Au fond, ça fait belle lurette qu'on sait parfaitement que le sport, et plus le sport est à haut niveau, plus le sport est médiatique, que le sport est contaminé, qu'il est pollué, qu'il est dopé par des questions d'argent, par des enjeux de fric. On connaît tous les salaires délirants des sportifs, la somme des sponsors astronomiques, le monopole des produits dérivés, transmission télé, t-shirts, écharpes, etc. Et bien sûr, toute la mafia, toutes les mafias que ça peut entraîner et à engendrer. Il n'est sans doute pas rare que les partis politiques soient jusque financés par le sport. Ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait longtemps que c'est plus ou moins critiqué, que c'est plus ou moins dénoncé, sans que ça change en fait grand-chose. Personne, sans doute, ne voulant trop gâcher le spectacle. Or, cette fois-ci, on a quand même l'impression, et c'est ça qui me semble remarquable, c'est que ça ne passe pas, ou ça ne passe plus. Et de la même manière, d'ailleurs, que dans le monde politique, les affaires, comme on dit, qui jadis passaient à peu près, aujourd'hui, elles ne passent pas, ou elles ne passent plus. Et depuis quelque temps, on commence à voir se former une chaîne de figures qui ne passent plus dans leur rapport à l'argent. Il y a eu les traders avec leur poker ruineux. Il y a eu les PDG avec leur parachute doré. Il y a eu et il y a encore les politiques et leur manie à se servir. Et les gros groupes comme BP et leur or sale. Et voilà que les footballeurs sont maintenant dans le collimateur. Très franchement, je pensais pas que ça viendrait aussi vite un jour comme ça. Et il est bien évident que si ça ne passe pas ou que si ça ne passe plus, c'est sans doute que simplement la distance avec ce monde et avec le camp qui grossit de plus en plus de ceux qui triment, de ceux qui payent, de ceux qui perdent tout, augmente. Et donc que le nombre de gens qui peuvent s'identifier avec la réussite de ce monde a fondu. Et qu'au contraire, les gens repèrent de plus en plus la corruption qui les ronge comme semblable à celle qui les menace eux. Voilà sans doute ce qui explique pourquoi à un moment donné, ça ne passe plus. Il y a quelques années, lorsqu'un intellectuel, un penseur, un philosophe critiquait le système, comme on dit, on avait tendance à lui rétorquer « qu'est-ce que tu veux mettre à la place ?» et on l'invitait à voir dans l'histoire le cimetière des idéologies comme pour prouver que rien ne change, rien ne changera puisque rien ne peut changer. Pourtant, lorsqu'on commence à voir que les gens ne s'identifient plus à ce qui était considéré comme la réussite, et qu'au contraire, ils relèvent de plus en plus les injustices et les corruptions comme ce qui les touche et les affecte, il devient périlleux de continuer à croire ou de dire que rien ne peut arriver. Les violentes critiques que cette équipe de foot a ramassées montrent à l'évidence que le monde ne regarde plus les choses tout à fait comme avant. Dans la Bible, lorsque Dieu envoie des prophètes, parce que la situation est catastrophique, il utilise des images, il utilise des signes, il utilise des paraboles, où précisément les choses apparaissent autrement, où précisément à travers ces images se révèle la situation. Par exemple, pour dire l'idolâtrie du peuple qui s'est donnée au culte des autres divinités, Dieu demande au prophète Osée d'épouser une prostituée, de manière à illustrer, à révéler la situation du peuple. Quelque part, actuellement, on s'approprie plus cette équipe pour révéler la corruption de la situation qu'on se serait approprié de sa réussite si elle avait été victorieuse. Et cela, c'est un changement. Il y a donc, encore une fois, toujours une identification. Au fond, elle ne laisse pas indifférente, et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette identification est sous une forme négative. Ça ne veut pas dire que l'identification est mauvaise, mais ça veut dire que l'identification est utilisée pour révéler ce qui est négatif. On s'identifie à son échec, on s'identifie à son malaise, parce que, au fond, elle révèle une profonde inefficacité à faire vivre un groupe. Ce groupe qui est censé être une équipe. Si une équipe de foot est aussi inefficace pour faire vivre un groupe autour d'un jeu, comment la société le pourrait-elle ? Comment pourrait-elle créer une meilleure cohésion pour réussir dans ce qui n'est pas un jeu, mais la vie ? Voilà sans doute la question implicite à l'identification. On ne s'identifie pas à ce que cette équipe porte comme équipe de France, mais plus au fait que cette France, ces symboles de France sont recouverts par les sponsors, par toutes les marques du fric et de la corruption, et qu'elle est devenue profondément inefficace pour produire autre chose que de l'individualisme égoïste. Voilà ce qui est constamment relevé. On s'identifie à son échec et ce que on rejette en la rejetant, ou à travers elle, c'est peut-être ce que nous commençons réellement à rejeter. C'est ce qui ne passe pas, ou ce qui ne passe plus.
We can be a sport.
Il y a un second élément que je voudrais relever, que je trouve remarquable dans toute cette affaire, dans tout ce qu'on entend, même si cet élément est peut-être un peu plus subtil, un peu moins directement évident, c'est un certain rapport à la jeunesse. Que les footballeurs et d'autres sportifs fassent rêver la jeunesse depuis longtemps, c'est certain. Que la jeunesse soit mobilisée à faire du sport à travers les footballeurs ou d'autres sportifs, et qu'elle soit influencée par leur façon de jouer, c'est évident. C'est pourquoi lorsque Zidane avait eu son fameux geste en finale de Coupe du Monde, on s'était beaucoup interrogé sur son impact à travers la jeunesse. Est-ce un geste de modèle ? À défaut de ne pas être un modèle de geste, s'est-on interrogé à l'époque. Pourtant, actuellement, c'est pas tellement de la jeunesse en général qu'on entend parler dans les réactions, mais d'une certaine jeunesse. D'une jeunesse qui est mise à part, qu'on ne cite pas, qu'on met complètement à part derrière le nom de ceux qui sont censés s'en occuper, à savoir les éducateurs. On entend beaucoup parler des éducateurs en ce moment, et donc qui dit éducateur dit une certaine jeunesse. Et j'ai pas l'impression que les éducateurs, le terme éducateur dont on entend parler, recouvre tous les gens qui sont chargés d'une façon ou d'une autre de s'occuper de la jeunesse, que ce soit les parents, que ce soit les familles, que ce soit les profs, que ce soit des moniteurs de sport ou d'autres. Pas plus que je n'ai l'impression que la jeunesse, qui est indirectement désignée derrière ce terme des éducateurs, soit la totalité de la jeunesse. C'est pour ça que je crois qu'il y a un véritable lapsus qui se cache derrière cette façon de parler des éducateurs. Et d'un véritable lapsus qui pose question. Quelle est cette jeunesse qui est ainsi mise à part, qui est si mise à l'écart, qui est nommée par l'intermédiaire d'un nom qui est censé les représenter, les encadrer et apparemment même les contenir. C'est comme si la faillite de cette équipe de France allait faire que les éducateurs allaient avoir du mal à contenir cette jeunesse non nommée. Alors bien sûr, personne n'est dupe, c'est manifestement d'une jeunesse défavorisée dont on parle. Cette jeunesse qui aurait plus besoin que l'autre jeunesse, celle qui n'est pas défavorisée, qui aurait plus besoin que l'autre, donc que l'image des Bleus soit belle. Et là encore, ça pose question. Ça pose question sur le rôle que l'on donne à l'image ou au modèle du foot ou du sport en général. Et je voudrais, pour illustrer ça, pour avancer sur cette question que ça pose, évoquer un film qui, à mon avis, est absolument remarquable sur la question. C'est un film qui s'appelle Coach Carter, qui raconte une histoire vraie, celle d'un entraîneur de basket, et qui est interprété dans le film par Samuel Jackson. Le basket, c'est évidemment l'équivalent du foot aux États-Unis et le coach est un peu l'équivalent de l'éducateur. Alors dans le film, cet entraîneur s'occupe d'une classe de défavorisés. À force de travail et de discipline, il arrive à en faire une équipe, c'est-à-dire autre chose qu'un groupe qui est d'accord pour ne pas qu'on empiète sur son individualisme. Et non seulement il arrive à en faire une équipe, mais à en faire une équipe victorieuse. Ce qui peut être d'ailleurs un pléonasme, au fond, si une équipe est réellement une équipe, il y a de fortes chances qu'elle soit victorieuse à bien des égards. Et en même temps, ce coach a passé un contrat avec ses étudiants, avec ses élèves, avec ses jeunes. Le contrat qui fait qu'ils doivent continuer de travailler à l'école et avoir des résultats. Or, il s'avère, le temps passant, que si cette équipe gagne, si elle remporte des victoires, les résultats scolaires, eux, n'arrivent absolument pas et donc montrent qu'il y a un manque de travail scolaire. Du coup, le coach déclare forfait plusieurs matchs alors qu'ils étaient vaincus, ce qui menace la bonne position pour le championnat. Et alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, ça provoque un véritable tollé de la part des parents, de la part de l'établissement scolaire, de tous les gens qui constituent cet établissement scolaire, les profs, les proviseurs, tout le personnel, voire même, je crois, de la municipalité. Et au fond, ces gens disent en substance au coach, ils lui disent « Mais vous êtes cinglé ou quoi ? Vous êtes en train de gâcher à ces jeunes la seule chance de leur vie, leur seule réussite. » Et tout ce beau monde qui avait pris l'habitude de démissionner complètement à l'égard de ces jeunes se met à se poser en défenseur de leur intérêt, de leur réussite, prêt à crucifier le coach. Coach dont la réponse est aussi inattendue qu'elle est une nouveauté dans la manière d'appréhender la situation, puisqu'il leur répond « Oui, peut-être, mais justement, tout le problème est là. » Tout le problème est que leur seule chance, c'est de briller une fois ou deux dans un championnat, alors qu'ils ont absolument, par ailleurs, aucune chance, aucune possibilité d'avoir une véritable situation, une véritable place sociale. On pourrait dire qu'ils sont réduits à être des gladiateurs dans une arène. Tout le problème est qu'on réduit leur chance, leur réussite à cela. Et en quelque sorte, on peut dire que le sport est devenu le nouvel opium de ce peuple-là. Et je crois que nous sommes un peu, même beaucoup, dans cette situation-là. Or, si les dieux révèlent l'échec de leur paradis, de leur organisation, comment les adorateurs peuvent-ils continuer d'y croire et de se plier au rite ? Voilà ce qui pose question et ce qui pose problème. Que le sport ait des vertus. Le film le suggère et au fond, il les énumère tout au long de sa mise en scène. Le sport permet la persévérance, il permet de l'effort, le travail, certaines patience, un dépassement de soi, de la discipline, un esprit collectif. Donc autant de vertus utiles et nécessaires. Mais ces vertus ne sont pas automatiques. Au fond, là, dans le film, s'il n'y avait pas ce coach, ces vertus n'auraient jamais pu avoir lieu. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces vertus ? Est-ce qu'on les investit dans d'autres domaines, comme l'éducation, comme la connaissance, et on essaye, de faire des gens des individus complets, des citoyens ? Ou est-ce qu'on les exploite pour la société du spectacle, pour créer du pain et des jeux ? Au fond, pour maintenir les bases et la situation d'une société injuste et divisée. Voilà, me semble-t-il, une question redoutable que pose toute cette affaire-là. Vous pouvez bien sûr réagir à ces émissions au 02 62 41 63 91. 41 63 91. Vous pouvez également retrouver ou podcaster ces émissions sur le site www.egliseprotestante.re.